carnet de campagne. Bonjour, les carnets dans le Morbihan. Cette semaine et tout de suite, des nouvelles des amis du Champ Commun à Augan, 1500 habitants, coopérative dont nous avions présenté l'exaction il y a 2 ans. Non seulement ils continuent d'agiter les communes rurales dans une finalité très simple, à savoir tenir une alimentation générale, gérer un café-concert, développer une micro-brasserie. La bière s'appelle Loganaise. Mais elle va ouvrir aussi une nouvelle auberge dans cette même commune d'Augan. En attendant, les soirées proposées dans le cadre du café-concert sont vendredi une lecture-concert à l'occasion du Festival des Poésies Contemporaines de Brocéliande, qui démarre d'ailleurs aujourd'hui, suivi d'un match d'improvisation théâtrale et samedi, le concert blues-rock de Vincent Poyet. Le site, c'est lechampcommun.fr. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons donner la parole à une personne qui préside depuis 14 ans le premier réseau des magasins bio de France, à savoir Biocoop, une réussite humaine, sociale, économique et environnementale, mais avec des questions à la clé. Évidemment, il s'appelle Claude Gruffat. Claude Gruffat est donc notre invité du jour.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Claude Gruffat, bonjour.
Bonjour.
Claude, vous êtes président de Biocoop depuis 2004.
Déjà.
Biocoop, c'est le premier réseau de magasins bio en France ou le second ?
Je ne sais pas si c'est le premier ou le second, ce n'est pas notre sujet de prédilection que de se mesurer par rapport à la taille. C'est un réseau qui influence la construction du modèle de la bio en France, oui, depuis plus de 30 ans maintenant.
Ouais. Né en 86 sous forme associative, devenue coopérative en 2002, vous êtes né en Haute-Savoie, famille de paysans.
C'est ça, ouais, donc, paysans laitiers, oui. Ouais.
Et vous étiez déjà pionnier de la bio?
Bah, ça a fait ma culture agricole, puisque dans mon enfance, j'ai baigné dans un milieu d'une agriculture de semi-montagne. Donc ça m'a forgé, ça m'a donné le goût à ce respect pour le paysan de l'économie de son outil de travail principal, qui est le sol, la fertilité des sols, et puis après tout ce qui est conduite des prairies, conduite du troupeau d'élevage laitier, etc., avec une notion de durée, avec une notion de demain est important, et du coup, il faut préserver aujourd'hui et faire attention à ces méthodes d'aujourd'hui pour que demain soit possible, donc pour que les animaux soient en bonne santé, pour que les sols continuent de produire de l'herbe, du blé pour nourrir les bêtes et les céréales. Et c'est toute une culture, une façon d'appréhender un certain modèle d'agriculture qui a imprégné mon enfance. Ouais.
Et bio, ça veut dire aujourd'hui ni pesticides, ni herbicides?
Bah, ça veut dire ni pesticides, ni herbicides, conformément au cahier des charges européens. Et puis pour moi, ça veut aussi dire un tas d'éléments complémentaires de cohérence, c'est-à-dire sur un plan social, comment on relie les gens qui travaillent dans ce monde-là, c'est-à-dire les producteurs, les consommateurs, les transformateurs, les distributeurs, etc. C'est tout un modèle de chaîne de relations humaines qu'il faut arriver à construire. Et puis c'est toute une cohérence avec le bien-être animal, avec encore une fois une certaine taille de ferme par paysan, c'est-à-dire que moi j'ai jamais admis l'idée qu'un seul producteur pouvait s'occuper de 120 vaches laitières, par exemple. Humainement, je ne sais pas si on peut mesurer ce que ça représente.
Et alors 1000, surtout pas.
Alors 1000, mais 1000 ils le font pas tout seuls après, donc on peut. Mais oui, plus de 100-120 vaches laitières tout seul, maintenant c'est monnaie courante. Mais c'est humainement, c'est inhumain. C'est voilà. Et après, si sur un plan de l'éleveur, on n'est pas bien dans sa peau, comment on peut parler de bien-être animal ? Par voie de conséquence, c'est compliqué. Donc c'est pas un modèle qui est durable, c'est pas un modèle qui va faire des produits de qualité, parce que des animaux qui sont pas bien, bah forcément ça fait des produits animaux qui sont pas de bonne qualité.
Comment, Claude Gruffat, vous approvisionnez vos 530 magasins maintenant dans l'Hexagone? On parlera de l'évolution, hein. Enfin, je peux le signaler, le chiffre d'affaires a doublé en 5 ans.
C'est ça? Ben, comment on approvisionne? D'abord avec du local, pour donner un débouché à tous ces producteurs de proximité.
En ville, c'est plus difficile.
Il faut aller un peu plus loin. Donc là, évidemment, la proximité est un peu plus compliquée. Et puis après, ben, on a travaillé de la construction de filières françaises, c'est-à-dire de filières un peu plus longues, évidemment, puisque les produits viennent d'un peu plus loin. Mais là, par contre, on s'est organisé dans la coopérative avec des groupements de producteurs qui acceptent de s'associer avec des commerçants. Et du coup, là, ça permet de construire des filières en donnant de la visibilité aux producteurs sur plusieurs années. Quand on est capable de dire, bah, cette année, on va avoir besoin de 400 tonnes de tournesol, l'année prochaine, 460 tonnes, l'année suivante, 520 tonnes, bah, ça permet aux groupements de producteurs de s'organiser, de se structurer, d'accueillir des nouveaux producteurs. Et puis aussi d'investir, parce que quand on est dans une relation de longue durée, ben les choses peuvent se structurer, s'organiser, et du coup devenir vivables, et donc la relation avec le producteur prennent une autre dimension sur le plan de la mise en marché, sur le plan de l'organisation de la production et puis sur le plan de la qualité, bien sûr.
Il y a 60 à 70 magasins qui ouvrent chaque année sous l'enseigne Biocoop. Votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires l'année dernière, c'est 1,1 milliard d'euros. C'est évidemment, commence à peser lourd. C'est par les égarements de l'agro-industrie que vous gagnez une nouvelle clientèle ou parce qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience plus généralisée?
L'augmentation de la consommation, elle est continue depuis 15 ans. Elle s'est accélérée sur les 3 dernières années et maintenant le challenge, c'est d'arriver à faire en sorte que la production accompagne ce plébiscite en fait des gens vers une alimentation de qualité. Alors pourquoi il y a une augmentation aussi importante? Il y a tous les problèmes sanitaires qui arrivent régulièrement. Donc le dernier, c'était la poudre de lait qui n'aide pas le conventionnel à trouver une voie et un chemin durable dans le paysage de la qualité de l'alimentation et de la sérénité de l'alimentation. Donc les consommateurs se posent des questions. Puis de consommateur à citoyen, il se pose d'autres questions, en fait, de l'impact de ce modèle d'agriculture sur l'environnement, etc. Et j'observe avec intérêt que fin 2017, pour la première fois, la motivation première pour les consommateurs de consommer bio, c'est par rapport à la protection de l'environnement. La santé vient juste derrière. Jusqu'à maintenant, c'était la santé qui était la motivation principale. Ce clin d'œil me plaît bien. Ça veut dire que le consommateur devient citoyen consommateur et pas simplement consommateur. C'est intéressant.
Claude Gruffat, invité au des carnets campagne. Claude, président de Biocoop. Biocoop, un réseau aujourd'hui de 530 magasins avec des transformateurs, avec des producteurs, avec des plateformes de producteurs. Comment on résiste à l'assaut des grandes surfaces qui tentent aussi de vanter les mérites de la bio au milieu de la diversité et de l'insondable origine de beaucoup de produits?
En gardant le fond, c'est-à-dire en gardant ce qui est important et qui a fondé la bio. Pour moi, il y a le modèle d'agriculture avec toute la notion de façon de produire et de façon de faire. Par exemple, ce qu'on appelle en termes techniques l'assolement, c'est-à-dire la succession des cultures sur une même parcelle. En bio, pour être bien, l'assolement, c'est tous les 12 ans. En conventionnel, on est en monoculture et on peut faire de la bio industrielle avec de la monoculture, c'est-à-dire toujours la même culture sur la même parcelle. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Un, c'est la dégradation des sols, parce qu'une plante qui absorbe et qui affaiblit les sols par trop de cultures intensives de même production, c'est pas bon pour la fertilité des sols, donc pour l'avenir. Deux, ça augmente la pression parasitaire. C'est toujours la même culture au même endroit, c'est-à-dire que les parasites s'installent et puis donc faut traiter. Après, il y a aussi toute la notion de filière. Je prends un exemple. Quand on produit un porc, ce porc, si on est dans une monoculture et qu'on ne s'occupe que du porc, on me dit qu'on est en filière classique, c'est ce que le modèle de l'agriculture conventionnelle a développé depuis des années. Chez nous, on se préoccupe aussi de ce que va manger le porc, c'est-à-dire les céréales, elles viennent d'où? Les protéagineux, soja, etc., ça vient d'où? Si vous avez un porc fait en France qui mange du soja qui vient du Brésil et qui mange des céréales qui viennent de Pologne, moi j'ai du mal à dire que c'est un porc d'origine France. Donc cette cohérence de transversalité qui va jusqu'au bout, c'est ce qui fera la différence demain, et je pense que pour marquer la différence avec d'autres intervenants maintenant dans la bio, c'est cette cohérence-là qu'il faut garder pour qu'elle reste vraiment ce qu'elle est, c'est-à-dire une activité économique sur les territoires qui répond à aux besoins des humains dans des conditions qui sont correctes.
Quoi. Mais comment préserver son esprit militant sans tomber dans la stratégie commerciale des grandes enseignes?
Pour moi, c'est une espèce de démarche RSE de la bio, responsabilité sociale et environnementale de la bio, une démarche qui est globale. Pourquoi nous, on met du commerce équitable dans ce qu'on fait? Parce que dans la relation entre les gens, la juste répartition de la valeur, c'est quelque chose qui est important, parce que le producteur va mieux vivre de son travail, le transformateur aussi, le distributeur aussi, puis le consommateur, lui, il est sûr d'avoir un produit de qualité longtemps. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce que le juste prix au consommateur, c'est pas le prix le plus bas, hein. C'est bien celui qui lui permet d'avoir un produit de qualité qui le maintienne en bonne santé longtemps. Donc c'est toute cette cohérence-là qui est importante.
Oui. Travailler chez Biocoop, c'est travailler dans un esprit sain, avec aussi des rémunérations à hauteur du travail, de l'engagement, de l'éthique et du militantisme.
Bah, autant que faire se peut. Ceci étant, on n'est pas tout seul sur la planète, donc on a des contraintes aussi qui font qu'il faut faire en sorte que le prix du produit au consommateur reste accessible et si possible au plus grand nombre en plus. Mais l'état d'esprit de la relation, ouais, c'est quelque chose qui est important. Donc le modèle de commerce qu'on va mettre en place demain pour garder les valeurs vont prendre pour moi de plus en plus d'importance à côté des valeurs de la bio.
En cassant aussi cette idée préconçue que tout produit bio est un produit bien plus cher que les autres, que le produit conventionnel, et donc s'adresse à un public privilégié.
Alors les écarts se réduisent, j'espère qu'ils vont se réduire encore avec la réduction des coûts intermédiaires quand on aura plus de produits. On va reprendre l'exemple du porc de tout à l'heure. Quand on a un éleveur dans un département qui va abattre son porc, il va aller à l'abattoir, agréé en bio. S'il y en a un dans le département, sinon il faut aller dans le département d'à côté. Donc déjà là, il y a une distance. Après, une fois qu'on est sorti de l'abattoir, la carcasse, il faut l'emmener dans un laboratoire de découpe, agréé bio. Si on n'a pas dans le même département, il faut encore aller plus loin. Et puis après, il va falloir aller chez quelqu'un qui fait de l'emballage, de mise sous vide des produits, etc. Et si on a plus de produits bio, on aura plus d'opérateurs sur les territoires, les coûts intermédiaires diminuent, donc les prix de la bio diminueront. Mais sans diminuer le prix au producteur et sans casser la chaîne de valeur qui fonde toute la construction.
Une dernière remarque, vous parliez d'abattoir bio, labellisé bio. Vous avez dû être écorné un tout petit peu, vous, dans le réseau, par cette image d'un abattoir qui utilisait, exploitait les animaux, les abattait dans des conditions absolument innommables. J'ai dit, ah ben, si c'est ça le produit bio qui passe par des abattoirs sauvages.
Alors ça, c'est regrettable. C'est vrai que les animaux font beaucoup de kilomètres pour arriver dans des parcs d'attente, dans des abattoirs industriels. Et là, le mal-être animal dans sa dernière phase avant l'abattage est vraiment insoutenable. Donc ça, il faut que ça change. Nous, notre préconisation, c'est que la France accepte ce que l'Europe du Nord fait déjà à une échelle significative. C'est que c'est plus l'animal qui va à l'abattoir, c'est l'abattoir qui vient à la ferme. Et du coup, là, il y a deux expériences, et on les soutient en France, qui commencent, et j'espère que ça prendra un peu d'envergure.
Biocop.fr pour l'adresse, il y a la page Facebook aussi, Biocop. Je vous offre un verre de glyphosate.
Non, merci.
Merci Claude Gruffin.
Merci.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Je me demande vraiment si Alternatiba et son Tour de France à vélo des villages alternatifs, ceux qui s'inscrivent dans ce mouvement Alternatiba, n'a pas donné des idées aux entrepreneurs salariés de coopératives d'activité et d'emploi de Normandie. En effet, ces derniers réalisent en ce moment un Tour de France, enfin un tour des coopératives, ils vont pas faire complètement le Tour de France, ils vont plutôt traverser les deux Normandies réunies en une maintenant. Un tour donc des coopératives d'activité et d'emploi en 80 jours, avec un clin d'œil évidemment. Les premiers engagés dans ce tour de promotion des coopératives sont des salariés de la coopérative Crescendo, implantée à Flers dans l'Orne. C'est d'ailleurs depuis cette commune que le départ du tour a été donné le 16 juin dernier. À raison de 15 à 20 km par jour, les équipes du tour profitent d'une étape à un festival, d'une visite d'une exploitation agricole ou d'un atelier ou d'un marché pour faire connaître l'entrepreneuriat coopératif. En 10 ans, 4 coopératives de ce type ont vu le jour entre Orne et Manche et elles hébergent en tout 230 entrepreneurs entre Cherbourg et Argentan. Leur modèle, qui repose sur la possibilité de tester une activité avant de passer à son développement, propose un hébergement juridique, fiscal et comptable de l'entrepreneur. Soustrait de ses contraintes administratives, cet entrepreneur est salarié de la coopérative. Il peut s'engager pleinement dans son activité. Il partage l'excédent de bénéfices attribuables aux membres aussi. Très encourageant dans cette liberté pour chacun d'exercer pleinement son activité, très rassurant pour la couverture proposée et la gestion démocratique de la coopérative. Le modèle, comme on l'a déjà dit, peine à se multiplier. Un tel tour symbolique donc peut participer à une meilleure connaissance des coopératives d'activité et d'emploi. Le tour s'achèvera le 20 septembre. Vous allez trouver un lien à nos pages d'émission avec ce tour. Et puis, on revient dans le Morbihan, un tiers-lieu. La liste ne cesse de gonfler de ces espaces de vie, de travail, de réflexion, de projet. Lui s'appelle l'Argonaute. Il est ouvert depuis 18 mois à Auray. Auray et sa rivière qui se jette dans le golfe du Morbihan. Le message des promoteurs de ce lieu est clair. Question valeurs défendues, bienveillance, solidarité, coopération, égalité, écologie et partage. Le résultat est un très bel agencement d'ateliers de travail et de création, des bureaux et des espaces de travail partagés, des salles mises en location et des événements locaux et nationaux comme la Journée européenne des métiers d'art. L'Argonaute, trait d'union co.fr pour l'adresse, ça apparaît aussi à nos pages d'émission.